planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
Cette heure pile, dimanche le 24 mars 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. Je vous ai dit hier matin, ceux qui étaient là à 7h en ouverture, que ça allait être une fin de semaine pleine de rebondissements. Il faut que je vous explique un petit rebondissement. Dans deux minutes à peine, le temps de faire le tour des nouvelles avec notre ami Calvin Bridge.
Oui, bien Paul, premièrement, on connaît maintenant l'identité du couple d'aînés qui a péri en tentant d'échapper au puissant incendie qui a ravagé leur maison à Sainte-Marie-en-Beauce. Il s'agit de Joseph Vachon, 84 ans, et Bibiane Marcoux, 76 ans. À leur arrivée, les pompiers ont finalement découvert les deux corps dans les décombres. Selon les résultats recueillis par le laboratoire de sciences judiciaires à Montréal, les victimes étaient éveillées au moment du brasier et ont tenté jusqu'au dernier moment d'échapper aux flammes. C'est environ 30 pompiers qui ont été appelés pour combattre les flammes, selon le service incendie de Sainte-Marie. La cause du feu reste encore inconnue, mais la thèse criminelle est toujours écartée. Vlad Christian Eremia a été accusé de tentative de meurtre et voie de fait armée pour l'agression d'un prêtre à l'oratoire Saint-Joseph en pleine messe vendredi matin. L'homme de 26 ans a comparu hier après-midi au palais de justice de Montréal. La couronne s'est opposée à sa remise en liberté et a demandé une évaluation psychosociale. Les autorités ne connaissent pas les motifs de l'agresseur. Le prêtre de 77 ans, rappelons-le, a été poignardé à au moins deux reprises. Et les 1300 passagers et membres d'équipage d'un bateau de croisière en difficulté ont été évacués par la voie des airs, tandis que des vagues déchaînées secouaient le navire. C'est le navire de la Viking Sky qui avait lancé un appel de détresse quelques temps auparavant. Selon le journal norvégien VG, le bateau avait des problèmes de propulsion et a commencé à dériver vers la terre ferme. Craignant qu'il ne s'échoue, l'équipage a jeté l'ancre dans une baie à environ 2 km des côtes afin de permettre l'évacuation. Selon les autorités, l'opération a duré toute la nuit.
Max de 1 degré cet après-midi à Québec. Ciel variable avec peut-être quelques flocons, dit-on, mais très peu. Non, mais on parle pas d'accumulation, ça. Juste quelques petits flocons. 40% de chance que ça se produise, donc on part pas en peur. Moins 14 la nuit prochaine sous un ciel dégagé. Les deux journées les plus froides de la semaine, c'est demain et mardi, moins 4 et moins 2, sous le soleil. Alors, ça reste assez printanier. Et d'habitude, je dépasse pas mercredi parce que ça s'en vient loin quand même. Mais je vous amène tout de suite à jeudi, vendredi, parce que je peux pas passer à côté. J'aurais pas la chance cette semaine de vous parler de la météo de jeudi et vendredi. 8 et 9 degrés respectivement, ah, oui. Sous le soleil toute la semaine. De la vraie température printanière. Présentement à Québec, c'est moins 4.
Et je t'imagine déjà sortir en bédaine sur la Grande Allée en short puis tout, Paul.
Suite après l'émission, moi, déjà.
Oui, déjà. C'est déjà fait. Hey, au hockey, le Canadien de Montréal a défait les Sabres de Buffalo par la marque de 7-4, inscrivant du même coup une troisième victoire de suite. Brendan Gallagher a marqué deux buts, si ça lui en fait 33 jusqu'ici cette saison. Un sommet personnel. Le tricolore va jouer son prochain match ce soir en Caroline contre les Hurricanes. Hockey junior, les Remparts ont pris les devants 2-0 dans leur série face aux Moussettes d'Halifax en l'emportant en prolongation par la marque de 5-4. C'est Philippe Kouratchev qui a marqué le but de la victoire pour Québec. Andrew Coxed a quant à lui inscrit deux buts et le gardien pour Québec, Carmine Anthony Pagliarulo, a stoppé 41 des 45 tirs dirigés vers lui. Et au ski de fond, Alex Harvey s'est illustré devant les siens ici à Québec. Le Québécois a terminé deuxième à l'épreuve de 15 km classique des finales de la Coupe du monde sur les plaines d'Abraham. Il s'agissait de l'avant-dernière épreuve de sa carrière. Alex Harvey a aussi de grands espoirs pour l'épreuve du 15 km style libre prévue aujourd'hui.
On va en parler du ski de fond parce que hier, moi, je suis allé puis je me. Il y a deux ans, je suis allé, je me suis découvert une passion pour le ski de fond. Ma passion s'est estompée pendant deux ans. Puis hier, en y retournant, la passion est revenue.
Quand tu dis passion, c'est pas toi qui fais du ski de fond, c'est toi regardant le ski de fond.
Oui, c'est ça. Faut okay. Quand même le spécifier.
Ça semblait aussi.
Je vous raconte ma journée d'hier dans deux minutes. Le temps de dire quand même bonjour à Isabelle Lacasse. Salut Isabelle.
Allô, allô.
Il faut qu'on raconte qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui. Pourquoi Pascal est pas là? Parce que je me sentais mal hier. J'avais quasiment l'impression d'avoir menti aux auditeurs, d'avoir caché la réalité.
Mais tu l'as fait pour une bonne cause, parce qu'il y avait quelque chose d'organisé pour Pascal, dans le fond.
Pascal ne le savait pas. Moi, ça fait deux semaines que je suis au courant que Pascal ne travaille pas aujourd'hui. Là.
OK.
Deux, trois semaines même. Parce que le copain de Pascal, hier, avait organisé un party surprise pour célébrer son anniversaire. Nous, on l'a célébré ici, hier matin, avec notre petit chapeau et notre musique de fête. Mais bref, hier soir, il y avait un party dans un chalet à Lac-Beauport, quelque chose comme ça. T'es assez loin, puis un party dans un chalet à Lac-Beauport, d'habitude, quand le cadran sonne le lendemain à 4 heures du matin pour aller travailler, ça fonctionne pas vraiment.
Non, ça fait pas longtemps qu'elle est couchée. C'est ça que c'est ça l'affaire.
Elle s'est couchée proche de l'heure à laquelle elle se lève d'habitude.
Exact.
Mais l'affaire, c'est que Pascal avait pas demandé congé. C'est son copain qui a appelé notre patron pour lui dire « C'est-tu possible de donner congé à Pascal le 24 mars? »
Ça, dans la catégorie complot, je pense que c'est assez gagnant.
Ouais, oui, puis dans la catégorie homme à marier aussi.
Oui!
Et là, Pascal ne le savait pas hier. Ça fait que nous autres, on fait notre émission comme si de rien n'était. On vous a dit à demain. Pascal a dit à demain. On a même fait notre réunion d'après-émission.
Avec elle.
On se fait tout un petit meeting
ben oui.
pour, OK, là, comment qu'on s'enligne nos entrevues pour demain, puis ci, puis ça. Bon. Avec Pascal.
Hey, mais pour vrai, secret de coulisses, même hier dans la réunion, elle disait, je pourrais préparer ça pour que demain, on était comme, non, prépare rien, notre show est prêt, tu sais. Casse-toi pas la tête. Elle était comme, non, je veux vraiment préparer
de quoi. Je vais préparer tel sujet ou je préfère une entrevue avec telle personne. Non, mais on a beaucoup de stock pour demain, Pascal. Casse-toi pas la tête avec ça. Ouais, ben, elle a appris quelque part hier qu'elle serait pas là. Alors, t'es venue frapper en relève de Pascal. Je t'en remercie beaucoup, Isabelle.
Ça me fait plaisir.
C'était un grand plaisir de te retrouver.
Ben,
on avait
moi aussi.
Bien du plaisir ensemble il y a quelques semaines.
Ouais.
Je suis content parce que 3 heures uniquement avec Paul Raphaël, j'aurais pas été capable.
Oh, non,
au moins,
okay.
T'es là pour pallier. Merci
d'accord.
beaucoup d'être là ce matin.
Ça, c'est tellement blessant, ça. Je subis de l'intimidation en milieu de travail. C'est ça qui arrive. Peut-être un petit mot sur le ski de fond, parce que vraiment...
Quel événement extraordinaire.
Je me suis découvert une passion. Je rigole, mais c'est vraiment fantastique.
Mais c'est parce que tous les éléments sont là. Évidemment, Alex Harvey avec sa course d'hier, tout ça. Mais, tu sais, sur les plaines, les gens qui sont là, les cloches qui sonnent partout. Il y a quelque chose d'enivrant quand on va là-bas.
Ah, complètement. Puis, j'y étais il y a 2 ans. J'ai été encore surpris par la quantité de monde qu'il y avait hier.
Il y a des collègues, dans le fond, qui vont devenir des ex-collègues d'Alex Harvey, qui disaient, on souhaite que les gens soient autant au rendez-vous lorsqu'Alex sera plus là, tu sais.
Mais
on le souhaite aussi, évidemment.
C'est clair que ça a un impact.
Ben
là.
Oui, c'est
ben,
clair.
C'est sûr que la présence d'Alex Harvey... Oui. Tu sais, il y a souvent eu de la controverse autour d'Alex. Il y a des moments où il se plaignait de ses farteurs. On disait, ah, Alex, il donne pas, tu sais, il livre pas la marchandise. Bon, ça, c'est un épisode là, dans un téléroman, tu sais. Mais hier, il fallait voir les gens qui étaient... Puis j'en faisais partie, moi, je me confesse. Moi, j'ai couru hier.
Ah oui?
Oui, oui. Parce que, comment?
Pour suivre la course, tu veux
ouais.
dire?
OK. Dans le sens où, tu sais, c'est comme une boucle, mais ça s'entrecroise,
oui.
puis il passe à différents endroits sur les plaines. Puis il y avait un moment où il y avait comme une espèce d'épingle juste avant l'arrivée, là, bon. Fait que moi, j'avais un endroit là avec ma blonde, puis on regardait la course de là. Mais juste derrière nous, à, je sais pas, moi, peut-être... 100 pieds.
Okay.
Il y avait une autre partie de la boucle qui passait. Ça fait que des fois, les skieurs passaient derrière nous, des fois, ils passaient devant. Mais quand je voyais qu'ils s'en venaient pour passer devant, c'est-à-dire dans une partie de la boucle, je courais. Là, je m'approchais. Oh, hey, Alex, vas-y. Là, je criais, là, je tapais dans mes mains. Puis là, une fois qu'Alex était passé, que le peloton de tête était passé, puis qu'il y avait 2 ou 3 autres Canadiens qu'on avait vus, là, je recourais à reprendre ma place parce que je voulais le revoir passer.
Ben oui.
Il fallait voir les gens courir à la fin du 15 km. Pour partir de là où ils étaient pour encourager Alex, puis courir jusqu'à la ligne d'arrivée pour le voir arriver.
Extraordinaire.
Parce qu'en plus de l'événement qui est fantastique, des gens qui sont là, sur le plan sportif, la course, là,
oui.
c'était incroyable les rebondissements qu'il y a eu là-dedans.
Surtout la fin de la course.
Le Russe qui est presque... Il y en a deux là qui sont
oui.
vraiment extraordinaires. Le Russe, dont j'oublie le nom, puis le gars, il s'appelle Klebo, c'est le Norvégien. Les deux, c'est des super machines.
T'as une chance sur deux que ça soit un Norvégien. Là,
ouais,
dans ce sport-là, c'est pas mal ça.
Puis, dans la deuxième moitié de la dernière boucle, c'est un 15 km, là, puis là, ils ont fait à peu près 14.
Ouais.
Fait que c'est vraiment la fin. Il y a une montée. Dans la montée, le Russe pète un de ses bâtons. Il est dans le peloton de tête. Ils sont 5 dans le peloton de tête. Alex est 4e. Il devient 3e. Il est 3e jusqu'à la toute fin. Il prend le dernier virage. Il reste une ligne droite. C'est même pas 100 mètres. Là, il reste la dernière ligne droite. La foule est là. Les cloches, là, ça hurle. Là. Tu devais entendre les plaines d'Abraham jusqu'à Lévis.
Mm.
Puis Alex réussit à dépasser le 2e pour aller prendre la 2e place.
C'est Hollywood, là.
T'as même pas besoin de rien connaître. Moi, je connais rien à ce sport-là. Mais c'était tellement excitant. Franchement, c'était un scénario de rêve pour Alex Harvey hier sur les plaines d'Abraham. Il y a une autre course cet après-midi. C'est le. En fait, ça commence à quoi, 10-11 heures, si je me trompe pas.
Faudrait
vérifier.
J'ai vu,
là.
Oui, que ça commençait vers 11 heures ce matin.
Puis c'est 50 km. L'épreuve reine. L'épreuve favorite d'Alex, ce qui va y rester des jambes après la performance fantastique d'hier, on ne sait pas.
Mais c'est ça, je comprends pas.
Il faut y être, allez-y.
Des fois, nous, on fait comme, un 4-5 km, de ski de fond, peu importe le sport qu'on pratique. Puis après ça, on est brûlé, on est raqué pour deux jours. Les autres font ça pendant vendredi, samedi, dimanche. Sérieusement, je souligne la capacité athlétique. Puis souvent, on pense pas, on se dit, ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est un des sports avec lequel il faut que tu aies le plus de cardio, force. Les jambes de ces athlètes-là, c'est
et d'endurance, évidemment. Vraiment. Puis je trouvais que ses larmes, à la fin, étaient extrêmement touchantes, hier, à la fin de sa course. Mais c'est aussi tout le travail en solo. Je sais qu'il n'est pas tout seul, nécessairement. Il y a quand même une équipe, mais ça demeure un sport individuel. Tu es tout seul sur cette piste-là.
À prendre la pression.
Oui, puis avec ta tête, tes démons, puis dire non. Tu sais, il faut que tu sois extrêmement fort entre tes deux oreilles. Et moi, c'est toujours ces moments-là que je trouve ça extrêmement touchant parce que je me dis, nous, on vit ça en gang. Tu sais, tu viens de l'expliquer. Tout le monde est là, puis on crie pour lui. Mais combien d'heures dans une année, vie qui vit tout seul, à aller s'entraîner, à se lever aux aurores pour essayer d'être encore plus performant, encore plus vite. C'est vraiment du travail acharné.
L'espèce de force mentale qui est rendue, je sais pas moi, au 10e, 11e kilomètre, même si les gens brûle, ils se disent non, faut continuer. Puis tu sais, l'espèce d'instinct d'athlète, pour vrai, chapeau à tous ces gars-là.
Ne reculant devant rien, l'équipe de Que Québec se lève a arpenté la ville pour être sûr de rien manquer. Hier, Isabelle, t'étais au défilé de la Saint-Patrick.
Ah oui, moi j'aime, il faut que ça bouge, c'est le printemps, faut qu'on sorte de la maison.
On était partout.
Je suis partie en famille au défilé de la Saint-Patrick, mais j'ai fait une petite erreur avant de partir parce que j'ai une jeune fille de 5 ans et j'ai dit, tu vas voir, il va y avoir plein de chars allégoriques, que ça va être un défilé, une parade. Fait que là, après, tu sais, mettons 7-8 minutes que la parade, le défilé était parti, elle dit, maman, ils sont où, les chars allégoriques? Il y en a eu un. Il y a eu un bateau, là. Il y en a eu un, là. On l'a, quand il est passé, on l'a regardé.
Là, c'est le point. Ah, il est là. Manque-le pas.
Mais tu sais, moi, sincèrement, c'était une excuse pour aller en ville, puis aller se promener, puis profiter du temps. Puis honnêtement.
T'es pas une grande amatrice de cornemuses?
Pas tant. Je dois être honnête, pas tant. Mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Bien honnêtement, parce que quand même, la Saint-Patrick, c'est une semaine, ça fait déjà une semaine, tout ça, puis je me disais, bon, il doit y avoir du monde, mais pas. Non, il y avait vraiment beaucoup de monde, c'est festif, on a vu toutes sortes de déguisements, pas nécessairement dans le défilé, qui était plus spectaculaire, des fois, hors défilé.
Il y avait pas trop d'ivrognes parmi les familles, non?
Pas tant, parce que, tu sais, c'était quand même, il était 2 heures l'après-midi, fait que peut-être que nous autres, on n'est pas restés plus tard.
J'avais des amis qui mettaient des photos sur Facebook qui avaient l'air d'avoir du fun, même si c'était 2 heures l'après-midi.
Ah, tu vois, j'étais pas dans la bonne place, ça veut dire. Mais ça a été sympathique. Mais voilà. Non, je n'irai pas prendre des cours de cornemuse, par exemple, à partir de maintenant. Là. J'ai pas développé ça.
Puis, Kevin, t'as décidé de te faire souffrance, toi, hier.
Oui, ben c'est une des premières fois que j'ai essayé ça. C'est hier soir, en fait, j'étais allé faire de l'escalade intérieure. Ouais, c'est comme pas dans mes habitudes, mais mes amis m'ont comme sorti hier. Puis, honnêtement, je parlais de force, tu sais, ou ce qu'ils font, là. Mais honnêtement, l'escalade, là. Hey boy, à matin, j'ai de la difficulté.
Non, je dis te faire souffrance, puis c'est pas en connaissance de cause parce que je suis pas un grand grimpeur. Mais j'ai souvent entendu que c'est le lendemain, t'as de la misère à lever tes bras.
Mais le pire, c'est que souvent les murs, de la manière, il y a comme des espèces de parcours aux murs que tu peux faire, et souvent c'est classé, exemple, quand on commence à V0, c'est vraiment pour les débutants, puis ça peut aller jusqu'à V10 et compagnie. Quand t'es à V10, c'est que tu peux quasiment te promener comme si t'étais un araignée, tu comprends, au plafond. Ça. Je faisais les V0 et j'avais de la difficulté. Je suis tombé sur ces matelas comme à 2-3 reprises, puis je me suis vraiment dit, coudonc, je suis vraiment à poche, moi. Je me suis vraiment dit. J'avais comme, on dirait, plus d'estime de moi. Je me dis, bon, mais ça y est, tu sais, c'est fini. Plus de force physique, pas en tout.
Il faut jamais abandonner, Kevin. Non.
Mais ça veut dire que t'as jamais, t'as pas essayé. Tu sais, des fois que tu dis, il y a des parcours, mais il y a des parcours où la structure, elle sort, fait que tu te retrouves quasiment à l'horizontale. Okay, t'as pas
mais l'affaire, ça. C'est qu'on n'avait pas d'harnais, ces murs-là. C'est des murs que c'est vraiment toi contre le mur. Puis hier, c'était le mur 1, Kevin 0.
Ah, c'est ça. Voilà. C'était toi contre le mur, puis le mur a gagné.
Mais c'est un détail important. Pas d'arnais, tu peux pas te retenir si c'est tu ça. Penses. Fait que là, c'est sûr que tu vas tomber. Non, je te donne un point. Come on.
Mais sérieusement, même les espèces de, je sais pas comment t'appelles ça, mais les blocs là, que t'agrippes avec tes mains, là, aujourd'hui, j'ai de la corne sur les doigts, c'est hallucinant. Ouais.
Aïe, je sais pas aller faire ça, moi. Je me souviens même quand j'étais petit puis j'allais au camp 3 saumons.
Oui.
L'escalade, là, moi, j'étais comme, garde, savez-vous quoi? Là, moi, je vais aller me promener en chaloupe. Je peux rien savoir de l'escalade. Moi, je peux faire du tir à l'arc, j'adore ça.
Oui.
Mais je vais aller faire de l'espèce de planche là, que tu te promènes sur le lac, là, du petit tourisme nautique, mais de l'escalade.
T'es le genre de gars qui encourage les autres puis qui dit lâche pas, prends le prochain bloc un peu plus haut.
Ouais, c'est ça. Genre, ça. Vas-y, lâche pas. Quand est-ce qu'on dîne?
Ah oui, c'est ça.
Fidèle à nos habitudes, comme à tous les matins, on va quand même aller voir certaines nouvelles qui ont retenu notre attention. La première vient pas d'un des quotidiens de la région. Pour ma part, c'est CBC qui a fait une enquête. Là. Ils ont leur émission d'enquête qui s'appelle Marketplace à CBC. Et ils ont fait donc cette enquête qui révèle des pratiques un peu douteuses de certains locataires, et non pas locataires, là, mais des locataires sur Airbnb. Donc, des gens qui louent leur appartement ou qui louent des appartements dont ils sont propriétaires sur Airbnb. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient fait des réservations puis qui se font annuler leurs réservations à dernière minute. C'est difficile de savoir dans quelle proportion, là, mais le blogueur spécialisé en voyage, Asher Ferguson, a évalué à 20,5% la proportion des clients touchés par des annulations de dernière minute sur Airbnb.
C'est un gros pourcentage.
C'est 1 sur 5, là. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Alors, mais là, je sais pas comment il s'y est pris. Je sais pas s'il a recueilli des témoignages ou s'il a regardé ses sites Internet. Bon, mais il en demeure que, tu sais, souvent, parce qu'on parle d'économie de partage à tour de bras, ici, à la radio et compagnie, on observe ces nouveaux phénomènes-là. Là, on a quand même un bon exemple de ça donne quoi à une industrie qui est pas trop réglementée. En gros, ce que les gens font, c'est que les gens qui ont un espace à louer sur Airbnb se disent « ben moi, je vais avoir le meilleur prix possible
».
Donc, ce qu'ils font pour être sûr d'avoir le meilleur prix possible, c'est que ils vont prendre, disons, un appartement pour une semaine donnée dans l'année, là, des dates X, là, et ils vont mettre l'annonce à plusieurs endroits différents. Tu sais, sur le site d'Airbnb, sur Facebook, sur différentes places comme ça, à différents prix. Comme ça?
Ah oui, comme si c'était trois personnes différentes un peu, finalement.
C'est ça. Alors là, tu sais, tu peux... Il y a des gens qui peuvent louer le même appartement. Il peut y avoir trois ou quatre familles, par exemple, qui vont louer le même appartement, mais certaines des familles vont payer plus cher que les autres. Alors après ça, la personne se retrouve à devoir annuler certaines personnes parce que les quatre peuvent pas se retrouver à la même place en même temps. À qui ils louent, c'est à celle-là qui a payé le plus cher.
Eh boy.
Ça fait que là, les trois autres familles se retrouvent bredouilles parce qu'eux autres, ben, ils avaient loué l'appartement. Il s'est fait confirmer, il avait peut-être même payé un dépôt, puis il faut dire finalement ça marche pas. La politique d'Airbnb dans ces cas-là, c'est que si un dépôt qui a été payé, soit il sera remboursé entièrement au client, ou soit si le client désire de l'aide, entre guillemets, de la part d'Airbnb, ils vont essayer de les aider à trouver soit un autre appartement, ou même à essayer de louer un hôtel. Puis là, ben, s'ils trouvent un hôtel, disons que la famille, mettons que tu as payé 100$ ou 200$ de dépôt, ben, le 200$ va être transféré à l'hôtel ou à l'autre membre d'Airbnb ou remboursé.
J'aurais un doute sur le transfert. On dirait que j'aurais préféré me faire rembourser, là, en tout cas.
Ben, malgré ça, il en demeure que...
Que ce que tu as loué, tu
même,
l'as plus.
Ben, même remboursé au complet, c'est ça. Tu as quand même mis du temps pour essayer de louer le bon endroit, dans les bonnes dates, au prix qui te convient pour tes vacances. Ça se déplace pas en claquant des doigts, tu sais. Puis c'est des annulations, dit-on, de dernière minute, là.
Ah ouais?
Fait que tu n'as pas nécessairement 6 mois pour te revirer de bord puis trouver une autre place. Airbnb, il y a quand même des règlements. Là, je dis, c'est une industrie déréglementée, mais il y a des règles. Les règles, c'est si un membre d'Airbnb annule à la dernière minute, il va y avoir une note là, dans son dossier, si tu veux, là, un dossier que tu peux consulter quand tu magasines sur Airbnb. Donc, ça va être indiqué que lui, il a déjà fait une annulation de dernière minute. Et ça pourra aussi ça fait aussi en sorte que la personne pourra pas louer pour les dates mentionnées qui ont été annulées. Ça fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se créent différents profils.
Oui, c'est sûr.
Ils se font plein de profils. Ça fait que là, ben, tu fais un nouveau profil avec l'adresse, les dates, tu loues, tu sais, au gros prix.
Des fois, c'est un coup de dé. Moi, j'ai souvent fait du Airbnb, puis j'ai jamais eu de mauvaises surprises. On en entend, par exemple, des histoires comme ça. Donc, il faut être un petit peu plus vigilant. C'est sûr que là, si tu lis, par exemple, les commentaires en bas de l'appartement que tu veux louer, moi, je me dis tout le temps, j'en prends puis j'en laisse, parce que ça peut être ses meilleurs amis qui ont écrit des commentaires.
Ouais,
alors, ça peut être la même chose pour « je me suis fait annuler à dernière minute ». Là, la personne, elle peut peut-être enlever ce commentaire-là. Tu sais, tu peux jouer un peu avec ça. Mais là, finalement, la prochaine fois que je vais louer, je vais y penser, par exemple.
Mais c'est-tu vraiment moins cher qu'un hôtel ou que louer un appartement via différentes plateformes? Moi, c'est ça que je me demandais. Ben, parce que...
Moi, j'ai fait du Airbnb, du VRBO, qui est pas mal la même affaire que Airbnb, si on veut. C'est plus parce que tu peux, évidemment, aller à l'hôtel, là, puis tu peux trouver des prix compétitifs, mais souvent, c'est parce que c'est des appartements où tu as cuisine, terrasse, etc. Pour toi. Maintenant, par exemple, dans la foulée de ce Airbnb-là, qui a pris beaucoup d'espace, évidemment, partout à travers le monde, on voit poindre ici au Québec aussi, mais partout, des appartements hôtels. Tu sais, ils vont construire, par exemple, je sais que la chaîne, par exemple, Hilton, je pense que c'est Home 2, où là, c'est comme une petite kitchenette, tout ça, je pense que c'est pour être compétitif à ce qui se passe sur le marché. Parce que si tu pars, par exemple, en famille, etc., c'est bien beau la chambre d'hôtel, mais des fois, tu as le goût de te faire peut-être une toast le matin ou avant de partir.
Ce qui est un peu maudit, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Parce que en théorie, là, si tu regardes vraiment juste ça de manière théorique, tu te dis, ben mettons que la personne, elle a affiché son appartement à 3 places. Une place où elle loue 1 000 $. Après ça, l'autre, c'est 1 500, l'autre, c'est 2 000. Puis une personne qui est prête à payer 2 000. Ben, tu te dis, donc, offre et demande, le juste prix, c'est 2 000. Il y a quelqu'un qui est prêt à le payer. Oui, ça, c'est en théorie.
En théorie, mais
en pratique, c'est maudit parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait peut-être réservé avant.
Et c'est peut-être un meilleur client. Tu sais, comme au final...
Peut-être, qui va laisser l'appartement dans des meilleures conditions.
Puis il va te donner de bonnes références aussi, qui va faire en sorte qu'il y aura peut-être d'autres personnes que lui connaît, qui vont t'envoyer des gens là-bas. Il faut penser à ça aussi. C'est pas juste une question... C'est sûr que c'est une question d'argent, parce que c'est une business, là, qui va le faire de l'argent.
Ben,
mais si on pense juste à cet aspect-là, je pense qu'on fait fausse route.
J'essaie de retrouver la citation d'un... Parce qu'à Marketplace, l'émission de CBC, ils ont réussi à interviewer un gars qui dit qu'il travaille pour une entreprise de gestion immobilière, puis qui avait peut-être été impliqué, mais ils n'ont pas été capables de le prouver. Là,
fait de l'import-export.
Dans ce genre de. C'est ça. Dans ce genre de petite crosse-là.
Ouais.
Et puis, le gars, il dit: nous nous sentons mal, c'est certain, mais allons-nous cracher sur des milliers de dollars parce que nous nous sentons mal?
Ah bon.
Ben, tu sais, non mais ça fait un peu pédeleur comme citation, mais d'un autre côté, tu peux pas mieux exprimer la réalité de l'économie de partage qui est déréglementée. Puis le gars il dit, ben regarde, c'est sûr que je trouve ça plate là, mais moi je fais ça pour faire de l'argent, puis je fais ce qui dans le cadre réglementaire ou en surfant dans la zone grise, je m'organise pour faire le plus d'argent possible.
Ouais.
C'est maudit. Mais...
Je sens qu'il y a un petit peu de chez toi qui te dit... Ben non, mais si j'étais dans cette situation, je prendrais le 2 000.
Écoute, honnêtement, moi, si je louais du Airbnb, là, je le ferais réglo parce que je suis assez pissou. Okay. J'ai tout le temps peur de faire des affaires illégales puis de me faire pogner. Fait que, tu sais, je ferais pas ça. Mais écoute, je veux dire, si tu loues un Airbnb... t'as décidé que tu t'embarquais dans de l'économie de partage qui est... plus ou moins réglementé. Là, il y a une faille, on la connaît. À partir de là, ben, soit Airbnb vont décider de régler le problème, ou soit les clients vont se dire, ben, je vais me retourner vers quelque chose de plus sécuritaire. Tu sais.
Oui, absolument.
Isabelle, tu ça a l'air. Moi, je pensais que travaillant à Montréal et vivant à Québec, donc travaillant dans la ville peut-être des futures expos et passant tes fins de semaine au Capitale, tu devais être
une fan de baseball. Mais j'aimerais ça embarquer dans cette folie du possible retour des expos, bien honnêtement, parce que, tu sais, on parlait de ce qu'ils font tantôt, pis tout ça, puis je sais que le sport, c'est rassembleur, le hockey, là, les Canadiens vont-ils faire les séries ou pas, on va le savoir dans les prochains jours, mais bon. Et là, on parle beaucoup, par exemple, ce matin dans le Journal de Québec, des 50 ans des expos, puis il y a une photo, la première photo des expos il y a 50 ans, puis tout ça, puis ils disent, est-ce que vous reconnaissez les gens? Bon, visiblement, je reconnais personne là-dedans. Parce que
ton score, c'est quoi?
c'est zéro. Mon score, c'est zéro. Puis je me dis, ben j'aimerais ça penser que ça pourrait fonctionner, puis que ça pourrait être le fun, mais je suis pas capable d'embarquer dans cette folie-là, parce que on dirait qu'on est ailleurs. On parle, oui, les expos à Montréal, mais ça serait rassembleur pour tout le Québec. Hein, quand ils nous vendent l'idée, ils nous vendent ça pour le Québec au grand complet.
Ouais.
Puis je sais que les Blue Jays s'en reviennent au Stade Olympique à Montréal pour leur match avant saison, etc. Puis que ça remplit à chaque année. Mais ça, on s'entend, c'est quoi? Ils viennent deux fois? Ils viennent deux games à peu près?
Puis pour les vrais partisans de baseball, les gens qui voudraient y aller plusieurs fois par été, les Blue Jays, c'est un peu loin, là.
Oui, oui, absolument.
À Toronto, ça marche pas.
Absolument.
Mais moi, tu vois, je suis dans la catégorie de monde s'il y avait les expos à Montréal qui continueraient quand même d'aller voir les capitales. Parce que, tu sais, moi, j'y vais. Pour moi, c'est un prétexte pour aller manger un hot dog puis prendre une bière au soleil l'été, tu sais. C'est-à-dire à l'ombre, en fait. À l'ombre, pendant qu'il se passe de quoi au soleil.
Bien sûr.
Je suis pas un fan de baseball, mais je suis un fan d'événements sportifs. Ça fait que j'irais pas à Montréal voir une partie des expos. Tu sais, je peux pas dire que je serais dans clientèle des expos
c'est
de Montréal.
Ça. Mais on dirait que ceux qui prennent la parole dans ce dossier-là, c'est ceux qui ont de grands souvenirs. Tu sais, la nostalgie,
ben oui.
Ça fonctionne très bien pour plein, à plein de niveaux. Puis je les comprends, s'ils ont vécu des belles années de leur jeunesse avec le baseball, c'est super. Mais on dirait que une nouvelle génération qui parle vraiment beaucoup des expos puis qui y croit vraiment, on dirait qu'on les entend moins. Je vais dire ça comme ça, je pèse mes mots. Peut-être qu'il y en a qui parlent plus que d'autres, mais je me dis tout le temps, c'est vrai que des projets sportifs, c'est rassembleur. On le sait. Il y a plein d'exemples à travers le monde par rapport à ça, mais je suis pas capable d'embarquer dans celui-là.
Mais tu vois, moi, c'est encore le côté économique sur lequel je me questionne, tu sais.
Ouais.
Il y a une raison pour. Puis c'est la même raison pourquoi à Québec, on attend après les Nordiques, puis on veut tant qu'ils reviennent, mais que ça aboutit pas. La question, c'est, ils sont partis à un moment donné les expos, là. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à vendre suffisamment de billets ou ils n'étaient pas capables de les vendre assez cher. Les droits de télé, c'était pas assez rentable.
Il y a beaucoup de parties dans une saison aussi. Il faut que les gens
soient
au rendez-vous.
Au baseball, c'est incroyable.
Là.
Écoute, ils jouent quoi? 120, 160, 50?
Je me demande si c'est pas 80 parties à domicile.
C'est
là, ça. L'affaire de même.
Ouais,
c'est beaucoup. Là.
Je serais pas surpris que ce soit 160, mais peut-être au 25-226, vous pouvez nous informer là-dessus. Je suis sûr qu'il y a des partisans de baseball qui vont nous le dire direct.
C'est environ 162.
Environ
ouais.
162.
Ouais. 162, non.
Donc, en 161, 163.
C'est ça, ça dépend.
Et c'est un chiffre pair.
Des fois, des matchs et demi. Non, mais je viens de regarder, c'est vraiment 162
matchs.
Ah,
c'est matchs. Ça. Mais bref, ma question, c'est si on ramène les expos, ça va-tu être un pétard mouillé? Il va-tu y avoir des gens? Ou bien, dans 5 ans, on va se dire, waouh, on a manqué notre coup, il faut qu'on les renvoie ailleurs, tu sais.
C'est ça.
C'est la question qui. C'est exactement la même raison pour laquelle. Là, on veut que les Nordiques viennent. On est nostalgique. On veut notre équipe. Il y a un sentiment aussi d'un peu identitaire là-dedans. Là.
Absolument.
On veut notre équipe. T'sais. Puis en plus, l'argument supplémentaire au hockey, c'est on veut recréer la rivalité Québec-Montréal qui était tellement extraordinaire. T'sais. Mais ça va-tu être. On va-tu vendre des tickets? On va-tu vendre des t-shirts? Les gens vont-tu regarder à TV? Ils vont-tu s'abonner à TVA Sport puis à RDS pour regarder les matchs? C'est ça,
j'y crois
la
plus
question.
Peut-être pour le hockey que pour le baseball, tu sais.
Moi aussi.
Me semble.
Moi aussi.
Mais on dirait que là, le dossier hockey, on n'entend plus beaucoup. Là,
il
mais...
semblerait qu'il y a plus de chances que les expos aboutissent à Montréal que les Nordiques à Québec.
Ouais.
Puis la raison la plus logique là, que je vois ça, c'est à Québec, on est 500 000 à Québec, 850 000 à peu près dans la grande région métropolitaine avec la rive sud. Tout ça.
Mm-hmm.
Montréal, c'est quoi, 3 millions sur l'île, genre? Une espèce de folie, là?
Non, je pense que c'est. Ben là,
ou 3 millions dans la grande région?
Oui, je pense que c'est plus ça.
Bon,
c'est...
mais il reste que, tu sais, c'est pas le même bassin de population.
Ouais, c'est ça.
Puis même à 3 millions, t'es loin pas mal de Boston, New York, tu sais, San Francisco, Seattle, Vegas. Tu sais. C'est des très gros marchés, puis ça se gère par des réseaux de télé, puis des grandes entreprises de publicité, puis des grosses compagnies. À Québec, ça les excite-tu le poil de jambe, 800 000 personnes? Pas sûr de ça. On s'arrête
c'est
pour une première...
C'est belle phrase qu'on va s'arrêter, d'accord.
On s'arrête pour une première pause, on revient.